Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes de la Radio du Monde. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Appel sur l'actualité. Votre émission, chaque jour, l'antenne vous appartient pour savoir, comprendre, débattre, échanger. Dans la deuxième partie, dans une demi-heure, nous parlerons du Mali, de cette crise politique et institutionnelle. Une mission de la CEDEAO a passé plusieurs jours à Bamako, mais n'est pas parvenue à trouver un compromis acceptable par tous. La plateforme d'opposition M5 a repoussé ses propositions. Conséquence, 5 chefs d'État ouest-africains feront le déplacement demain à Bamako pour tenter de débloquer la situation alors que le M5 a proposé une trêve de ses actions le temps de la Tabaski. Alors que peuvent faire ces dirigeants ouest-africains pour relancer les discussions? Peuvent-ils obtenir un compromis, un gouvernement d'union nationale ou encore une nouvelle cour constitutionnelle? Nous attendons vos commentaires au 33 9 693 693 70, vos messages WhatsApp 33 6 89 28 53 64 et bien sûr le débat c'est aussi sur la page Facebook de l'émission. Mais avant cela, comme chaque jour pour commencer, la rédaction se mobilise pour tenter de répondre à vos questions d'actualité et les premières questions nous viennent du Bénin. Bonjour Elias.
Bonjour François Mazet, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI.
Elias, vous êtes à Aplaoué, c'est dans l'ouest du Bénin, non loin de la frontière du Togo, soyez le bienvenu. Vous avez des questions sur la situation en Centrafrique, allez-y.
Oui, monsieur Mazé, à quelques mois de la présidentielle, l'ONU s'inquiète de la recrudescence des combats dans le nord-est, nourrie par l'arrivée des combattants étrangers dans le pays. J'aimerais savoir... comment est-ce possible que tant de combattants étrangers s'installent en Centrafrique? Quelle est leur motivation?
Eh bien, pour vous expliquer tout cela, Charlotte Cossé est avec moi en studio. Bonjour Charlotte.
Bonjour François et bonjour Elias.
Notre correspondante à Bangui qui fait un crochet estival par Paris et qui va répondre à vos questions, Elias. Alors Charlotte, c'est vrai, les Nations Unies appellent Bangui et les pays voisins à redoubler d'efforts pour lutter contre ce qu'ils qualifient de menace à long terme pour la région, surtout à 6 mois de l'élection présidentielle. Alors Charlotte, comme le demande Elias, comment est-il possible que tant de combattants étrangers soient actuellement en Centrafrique et quelles sont leurs motivations?
Alors, historiquement, les groupes armés centrafricains ont régulièrement fait appel à des combattants étrangers pour les aider. La proximité ethnique, parfois des intérêts politiques ou économiques convergents, facilite ces rapprochements. Alors, d'autre part, les déplacements de ces combattants se font sans grande difficulté dans ces régions reculées du pays. Concrètement, c'est des zones où les frontières ne sont que très peu contrôlées par les forces armées centrafricaines. Les FACA sont actuellement en train d'être déployées sur le territoire, mais elles sont encore en nombre insuffisante et elles ne sont pas suffisamment dotés, notamment en matériel roulant, pour pouvoir contrôler ces immenses frontières. Il faut aussi rappeler que ces zones ne disposent pas de voies routières en tant que telles. Les axes de déplacement sont constitués de pistes particulièrement dégradées à certains endroits et totalement impraticables pendant la saison des pluies, ce qui est favorable évidemment aux bandes armées qui connaissent souvent très bien leur environnement et se déplacent sur des axes secondaires ou dans la brousse.
Charlotte, pour ce qui est de leur motivation?
Alors, leurs motivations sont multiples. On les a évoquées, solidarité ethnique, clanique, familiale, les intérêts politiques, mais bien sûr, ou sans doute la plus grande et la plus fédératrice, la motivation financière. L'appât des minerais, les mines d'or, de diamants attisent notamment les convoitises des éléments armés étrangers, et ces derniers sont aussi motivés par les gains qu'ils peuvent obtenir en combattant. D'ailleurs, dans leur rapport, les experts expliquent, par exemple, dans le cas du nord-est du pays, comme évoqué Elias, certains groupes armés centrafricains ont utilisé leurs relations, notamment avec les chefs communautaires soudanais pour obtenir des munitions, des armes et des combattants. En échange, ces combattants soudanais se sont vus promettre des versements en espèces, en bétail ou encore de pouvoir, comme on dit, se payer sur la bête, c'est-à-dire de pouvoir participer au pillage de la ville.
Alors Charlotte, dans leur rapport, les experts de l'ONU dénoncent également la poursuite de l'importation de très nombreuses armes malgré l'embargo.
Mais oui, parce que l'embargo adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2013 pèse concrètement sur les autorités légitimes, officiellement élues. Les autorités centrafricaines sont contrôlées et doivent respecter certaines règles pour pouvoir importer des armes. L'embargo s'impose donc aux autorités, mais de fait, les groupes armés sont, eux, hors la loi et ne respectent pas cet embargo. Ils poursuivent donc leur armement et leur commerce dans l'illégalité, une situation considérée évidemment comme injuste par les autorités qui n'ont de cesse de dénoncer cette situation et plaident depuis des mois pour la levée totale de cet embargo.
Elias, vous avez une autre question pour Charlotte Cosset.
Quelle est la masse de manœuvre du gouvernement centrafricain ?
Alors, le gouvernement recrute actuellement pour reconstituer son armée. L'armée se reconstruit et des petits bataillons ont commencé à être déployés sur l'ensemble du territoire, notamment à Birao. D'autre part, l'embargo sur les armes en RCA n'est pas total. Il a même été allégé au mois de janvier et devrait prochainement être rediscuté. L'armée centrafricaine a donc aujourd'hui le droit de se procurer des armes. De fait, le rapport de force est encore déséquilibré entre les groupes rebelles qui sont lourdement armés pour certains et l'armée centrafricaine en reconstruction. Alors, les autorités possèdent un levier, le militaire, celui dont on vient parler, mais ils ont aussi le levier de la politique. Le gouvernement a signé en février 2019 un accord de paix avec 14 de ces groupes armés. Des membres de ces mouvements ont intégré le gouvernement. Ils sont supposés participer à la politique des autorités à part entière. Mais les autorités donc ont des possibilités de discussion et d'influence importantes via ce canal.
Merci Charlotte Cosset d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions d'Elias. Elias, si vous nous entendez, est-ce que vous avez bien suivi les explications de Charlotte et est-ce que c'est plus clair pour vous ?
5 sur 5,
et bien alors c'est parfait. Elias, merci à vous, auditeur béninois, ce qui fera plaisir à notre prochaine intervenante. Marie-Cécile Zinsou est avec nous. Bonjour Marie-Cécile.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. On va parler de la restitution d'œuvres africaines par la France. Un projet de loi a été présenté en ce sens la semaine dernière en Conseil des ministres. Et ce projet, eh bien, il a suscité l'intérêt de Adamou. Bonjour Adamou.
Bonjour. Bonjour Marie.
Vous êtes à Lomé au Togo. Soyez le bienvenu. Quelles sont vos questions sur ce sujet, Adamou ?
Merci François. La France va officialiser la restitution d'un centre historique au Sénégal et dans les prochains mois des vertus au lieu du patrimoine au Bénin. Les questions sont les suivantes. Sur quels critères les œuvres ont-elles été choisies? Comment cette restitution va-t-elle se faire? De nouvelles œuvres pourraient-elles être restituées à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun?
Alors Marie-Cécile Zinsou, je rappelle, vous êtes présidente de la Fondation Zinsou à Cotonou. Sur la question des critères tout d'abord, pourquoi spécifiquement le sabre d'El Hadjtal au Sénégal et ses 26 objets liés au roi Béhanzin au Bénin ?
Alors écoutez, pour l'instant, la liste des 26 œuvres béninoises n'ont pas encore été rendues publiques. Donc pour l'instant, on peut imaginer ce qu'elles sont, mais on ne peut pas encore commenter la liste puisqu'elle n'est pas officielle. C'est les objets dont le président Macron avait dit qu'ils seraient rendus à la remise du rapport de Bénédicte Savoie et Félouine Sarr sur la restitution qui avait été rendu le 30 novembre 2018. Et on peut imaginer que ce sont les objets qui ont été pris par les troupes coloniales du général Dodds. Donc ce seraient les objets qui auraient été pillés en 1892 dans les palais royaux d'Abomey. Donc on peut imaginer que ce sont ces œuvres-là. Et dans ce cas-là, ce sont les œuvres les plus symboliques et les plus importantes de l'histoire dahoméenne. Donc du coup, pour le Bénin, c'est une véritable avancée parce que même si on ne parle que de 26 œuvres, en réalité, ce sont les 26 les plus symboliques puisque ce seraient a priori les portes du palais royal, le trône et les récas. Donc vous voyez, ce sont des objets qui sont vraiment intimement liés au royaume d'Abomey et qui pourraient retrouver le palais royal d'ici un an ou deux, on imagine.
Oui, alors jusque-là, les restitutions n'étaient pas autorisées, hein, Marie-Cécile Zinsou, puisque ces biens étaient inaliénables et imprescriptibles. Donc concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner ?
Alors, concrètement, le projet de loi a été validé par le Conseil des ministres et donc maintenant la loi doit être votée. Une fois que la loi est votée, je pense qu'une des choses qui est positive, c'est qu'il, dans le projet de loi, il est écrit que quand la loi est votée, les œuvres ont 365 jours pour rejoindre les pays auxquels leur propriété sera transférée. Alors, dans le cas du Sénégal, dans le cas du sabre d'El Hadj Ibrahim Tall, le sabre est déjà au Sénégal, puisque Édouard Philippe l'a apporté en novembre 2019 et c'est un prêt à long terme pour le moment et donc ça va devenir un transfert de propriété. Dans le cas du Bénin, ça veut dire que les œuvres doivent partir dans l'année qui suit la loi. Donc ça, ça paraît un signe de bonne volonté de la France puisque ça donne le sentiment qu'avec ce délai, ça oblige toutes les administrations à se mettre en place et à rendre les œuvres dans un délai court. Parce que l'inquiétude, c'était que la loi soit votée et que les objets ne reviennent pas. Là, évidemment, le délai sera marqué dans la loi. Donc, ça change un peu la donne et ça peut créer un sentiment de confiance.
L'administration va être obligée de suivre le politique et donc on va vraiment être dans ce qu'on appelle à Paris un nouveau partenariat culturel.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est très symbolique cette restitution, puisque d'abord elle concerne que 27 œuvres et puis que deux pays. Mais c'est symbolique, mais c'est une première. Et je pense que nous, on a intérêt à célébrer cette première parce que ça veut dire un changement total de paradigme dans la relation. C'est vrai que le président Mitterrand avait déjà commandé un rapport sur la restitution. C'est vrai aussi que le président Chirac avait voulu que les œuvres voyagent. Et d'ailleurs, dans ma fondation, on avait accueilli ces œuvres en 2006. Elles avaient voyagé, elles avaient été montrées à la population et ça avait été un immense succès populaire avec 275 000 visiteurs en 3 mois. Ensuite, le président Sarkozy avait fait une loi d'exception pour les restes humains. Donc, par exemple, la Vénus Hottentote avait été rendue à l'Afrique du Sud. Mais là, c'est la première fois qu'on a un vrai transfert de propriété. Donc, ça change complètement la relation. La France dit, nous avons le droit de nous questionner sur notre histoire. Peut-être n'avons-nous pas été exemplaires. Et donc, nous vous transférons une propriété qui, normalement, devrait être inaliénable, puisque tout le patrimoine français, normalement, doit rester en France et ne peut jamais être cédé. Donc là, c'est un geste symbolique très fort, parce que c'est très rare que la France accepte ce type de restitution. Et donc, ça donne le sentiment que si d'autres pays arrivaient avec des demandes du même ordre que la nôtre, notre loi faisant précédent, on pourrait envisager un amendement ou une deuxième loi pour les autres pays qui auraient fait des demandes officielles.
Justement, Marie-Cécile Zinsou, c'est ce que demandait Adamou. Hein, la loi, elle cible donc spécifiquement le Sénégal et le Bénin. Donc pour vous, c'est une vraie ouverture pour d'autres pays comme par exemple la Côte d'Ivoire ou le Cameroun dans les mois ou les années à venir?
C'est-à-dire qu'il faut que les pays fassent des demandes officielles. Ça, c'est la base. La France ne rendra pas des œuvres à des pays qui ne les demandent pas. Et pour l'instant, il semblerait que la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie aient introduit des dossiers. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de communication sur le sujet, ni du côté ivoirien ou éthiopien, ni du côté français. Donc, c'est pas des informations confirmées. Mais c'est vrai que si les pays ne demandent pas, ça leur sera pas rendu. Mais je pense que cette fois-ci, la démarche est différente. Et je pense aussi une chose que personne ne regarde, mais qui est importante. Le Bénin et le Sénégal se sont mobilisés à travers leur jeunesse de façon très impressionnante. C'est-à-dire que les réseaux sociaux se sont emparés de la question de la restitution. Et alors, si on dit que diplomatiquement, c'est une petite victoire parce que finalement, ça concerne que 27 objets et 2 pays, on peut quand même attribuer cette victoire plus à la mobilisation de la jeunesse sur les réseaux sociaux qui s'est vraiment impliquée, investie, qui en a discuté, qui en a parlé, qui a été ouvert à tous les arguments, qui a été capable de dépassionner le débat et juste de s'intéresser à l'essentiel. L'essentiel étant que les jeunes enfants de nos différents pays aient enfin accès à ces supports d'histoire et de mémoire que sont les œuvres qui vont revenir.
Et justement, au Bénin, c'est le musée d'Abomey hein, qui doit accueillir ces œuvres, ou on est la construction de cet établissement?
Alors écoutez, le musée des palais royaux d'Abomey existe, évidemment, il est même classé au patrimoine mondial, donc il y a déjà un musée, et l'idée c'est d'avoir la construction d'un nouvel espace pour accueillir ces œuvres dans des conditions optimales. Mais pour être tout à fait honnête sur la question des conditions de conservation, il ne faut pas oublier que quand le général Dodds et ses troupes coloniales pillent les palais royaux en 1892, ils trouvent dans les palais des objets qui ont entre un siècle, 2 siècles, voire même pour certains 3 siècles. Donc il ne faut pas oublier que la conservation, c'est quelque chose qui nous connaît au Bénin. C'est quelque chose que nos rois avaient l'habitude de faire au 19e siècle, donc c'est un défi qu'on va relever probablement assez facilement au 21e siècle.
Merci Marie-Cécile Zinsou pour ces précisions. Et merci à Adamou qui était à Lomé. Adamou, vous êtes en ligne, vous avez pu écouter toutes ces explications?
Oui, merci François Mazé, merci Marie-Cécile, je valide à 100%.
Eh bien, bonne journée à vous, Adamou, à Lomé, où vous nous écoutez, où il est 8h25. À Kinshasa, il est 9h25 et c'est Tim qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour François Mazé.
Tim, vous avez entendu sur RFI que la province de l'Équateur était touchée par une nouvelle vague d'Ebola depuis le début du mois de juin. Et vous avez des questions sur le sujet, allez-y.
Oui, exactement. La RDC subit encore une résurgence d'Ebola dans la province de l'Équateur, alors que la maladie avait été éradiquée de la zone il y a 2 ans. Alors, jusqu'à présent, Ebola sévissait à l'est du pays. Pourquoi retrouve-t-on de nouveaux cas dans les nord-ouest du pays? Et pourquoi l'épidémie est-elle si résistante malgré les campagnes de vaccination?
Je vais le demander à Gervais Follefac, qui est également dans la capitale de RDC. Bonjour à vous, Gervais Follefac.
Ouais, bonjour François.
Vous êtes responsable des urgences pour l'OMS en RDC. Vous vous êtes rendu d'ailleurs il y a quelques jours dans la province de l'Équateur pour voir quelle était la situation à Mbandaka dans la lutte contre Ebola. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner les derniers chiffres disponibles de cas et de décès liés à Ebola dans cette province de l'Équateur?
Oui, merci François. Nous sommes déjà à 62 cas. Parmi lesquels 58 confirmés et 4 probables, et 27 décès causés par cette épidémie qui a commencé depuis le début du mois de juin.
Alors Tim nous demande pourquoi cette région de l'Équateur est touchée. C'est une question avant tout de climat et de géographie.
Oui, merci Tim pour votre question. Je voulais peut-être d'abord rappeler à nos auditeurs que la maladie à virus Ebola, c'est une maladie grave, le plus souvent mortelle chez l'homme. Elle est causée par un virus qui se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite d'un homme à un autre. Donc depuis 1976, la RDC a connu 11 épidémies de maladie à virus Ebola. C'est vrai que la 10e épidémie qui a sévi à l'est du pays, et plus précisément dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, et des Litouris, était la plus longue et la plus meurtrière qu'a connue le pays. En effet, elle a causé plus de 2000 décès. Bon, cependant, les présentes épidémies ont affecté l'Ouest, le Nord et l'Est et le centre de la RDC. Donc, en effet, c'est parti du pays qui regorge d'importantes forêts, constitue un environnement favorable aux animaux réservoirs du virus Ebola. Donc l'Équateur fait partie des provinces de la RDC dont l'écosystème est favorable à la survenue de la maladie à virus Ebola. Par rapport à la deuxième question de Tim, pourquoi l'épidémie est-elle résistante malgré les campagnes de vaccination? Je dois dire que en ce qui concerne la personne de la maladie face aux campagnes de vaccination, il faut souligner que la stratégie de vaccination contre le virus Ebola est basé sur un protocole de vaccination en anneaux, qui est différent d'une campagne de vaccination de masse menée pour beaucoup d'autres maladies évitables par la vaccination.
Alors, cette stratégie en anneaux, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne?
Oui, dans cette stratégie en anneaux, au lieu de vacciner tout le monde, nous vaccinons les personnes à risque de contacter la maladie. On les appelle généralement les contacts. Donc, c'est des personnes qui ont été en contact avec le malade. Donc, vous convenez avec moi, François, qu'il faut au préalable identifier toutes ces personnes à risque et il faut le faire suffisamment tôt pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec le virus.
Oui, donc, Allô? Oui, et ça demande beaucoup de travail parce que ça vous demande d'aller dans des régions assez reculées, dans des zones forestières très denses notamment.
Oui, c'est vrai. Ça nous demande d'aller dans les zones les plus reculées, mais surtout que la vaccination, à ce moment, vous comprenez que la vaccination seule ne peut pas constituer la stratégie pour vaincre Ebola. Il faut associer la vaccination à d'autres stratégies, particulièrement à la sensibilisation des populations, pour qu'elles adoptent des comportements à moins de risques, par exemple le lavage régulier des mains, éviter de manipuler les dépouilles d'Ebola, et éviter d'être en contact avec quelqu'un, un malade d'Ebola ou bien avec les sécrétions d'un malade tel que les vomissements. En plus de ça, il faut soigner les malades. Donc pour ça, il faut un engagement communautaire très fort pour pouvoir réussir tout cela.
Voilà, et c'est pour ça que vous allez à la rencontre des communautés avec vos équipes et d'autres organisations. Merci Gervais Follefac d'avoir répondu aux questions de Tim, notre auditeur de Kinshasa.